Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Salut Stéphane.
Salut Philippe Vincent.
Tu veux me parler de crypto ce matin?
Ben, je veux te parler rapidement de crypto parce que c'est ma montée de lait. Je suis un peu collé au plafond. T'as pas beaucoup probablement parlé à l'émission de Samuel Bankman-Fried qui était non. à la tête de TFX, cette espèce de bourse des crypto-monnaies.
FTX.
FTX, oui, c'est ça, j'ai dit quoi?
TFX, mais c'est pas grave.
Je suis dyslexique, alors avec
peu,
les lettres, je suis toujours en train de... Alors, effectivement, FTX, il y a deux semaines, valait 32 milliards et qui aujourd'hui vaut peut-être quelques centaines de millions de dollars si on est capable de retrouver ces sous-là. C'est, estime-t-on pour l'instant, parce que rien n'est prouvé, quand même une des plus grandes, sinon la plus grande pyramide de Ponzi qui a jamais été montée de l'histoire. Des dizaines de millions d'investisseurs vont perdre tout, y compris leurs culottes peut-être. On espère qu'ils avaient des investissements ailleurs. Je veux pas faire l'histoire de Samuel Bankman-Fried, qui est bien nommé, parce que quand on y pense, Bankman-Fried, c'est comme
c'est
si
fou,
on disait
hein?
un banquier cuit. Alors, il n'avait rien d'un banquier parce qu'il s'est très mal occupé. Il n'a pas été un bon fiduciaire pour l'épargne qui lui était donnée. En fait, on pense qu'il a effectivement utilisé l'épargne pour se les mettre dans les poches, ces sous-là. Ceux qui investissaient avaient des rendements qui étaient toujours proportionnels aux nouveaux dépôts qui étaient faits, ce qui est une très mauvaise idée. Ça ressemble à une pyramide de Ponzi. Et la cathédrale de la bien-pensance aux États-Unis, le New York Times, qui avait déjà été assez critiqué il y a 10 jours pour un article complaisant à l'endroit de Monsieur Banquier Cuit, Bankman-Fried, récidive et lors d'un événement organisé la semaine prochaine où on va réunir les most vital minds, les esprits les plus scintillants. Évidemment, si on est prêt à payer le prix d'entrée, c'est-à-dire 2 499 $, pas 2 500. Alors, c'est un événement pour les happy few, tu le comprendras. Alors, à cette réunion des esprits les plus allumés, il y aura Monsieur Bankman-Fried qui, évidemment, n'a été accusé de rien, mais disons que l'affaire est poissonneuse. Ça sent vraiment pas bon. Et il est invité, il sera d'ailleurs comme invité à côté du président ukrainien Zelensky. Et je me pose la question, parce que Monsieur Bankman-Fried, avant d'être cuit, était aussi le 6e plus important donateur lors de la dernière campagne électorale pour les démocrates. En fait, peut-être le 2e plus important pour les démocrates et le 6e plus important donateur de l'ensemble des donateurs qui se sont manifestés à ces dernières élections de mi-mandat. C'est donc dire que du côté républicain aussi, il y a des gens qui sont généreux. Mais pour faire simple, c'est plus ou moins 40 millions de dollars qui étaient peut-être pas tout à fait à lui, qu'il a donné pour faire une douche de contribution sur plusieurs candidats démocrates. Et je me dis, est-ce que le New York Times aurait aujourd'hui les guts d'inviter quelqu'un qui aurait de façon égale envoyé des sous à des candidats républicains? Je répète, il n'a été accusé de rien. Mais en toute autre circonstance, je pense qu'ils auraient gardé leur distance. Il a confirmé ce matin, parce que son entreprise est sise aux Bahamas, pour être loin du fisc américain, il a confirmé, M. Banquier Cuit, qu'il serait présent en personne, je pense que c'est le 30 novembre prochain.
Ah ouais.
C'est audacieux, sinon un peu baveux.
Mais c'est parce qu'il a fraudé du monde pas mal.
Je veux dire, c'est encore une fois,
qui était là-dedans, il y avait Anthony Scaramucci, c'était le tout bien-pensant américain.
Je ne sais pas si Tom Brady répond à cette description. Larry David, le partenaire de M. Seinfeld dans l'écriture de Seinfeld, qui a aussi sa série qui marche très fort. Larry Seinfeld était une des voix qui avait fait de la publicité et qui est aujourd'hui poursuivi par certains de ceux qui ont investi. C'est donc dire que c'est une affaire assez rock'n'roll. Je t'ai dit qu'on parlerait surtout aujourd'hui, mais je me suis un peu emporté, de la commission Rouleau qui fait ou tentera de faire la lumière sur ce qui s'est passé l'hiver dernier avec la loi sur les mesures d'urgence. C'est demain que les audiences de la commission vont se terminer. Monsieur Trudeau devrait probablement être un des derniers témoins, sinon le dernier. Un exercice, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi fascinant, qui nous a permis quand même d'entrer dans les coulisses de cette prise de décision. Il y a plusieurs documents qui ont été livrés caviardés, des questions qui restent en suspens. L'avocat des camionneurs a souvent demandé si on pouvait aller au bout de certaines curiosités, par exemple, sur la présence ou non d'agents provocateurs. Mais c'était pas l'objectif de cette commission. Ça serait peut-être utile de savoir s'il y en a qui étaient là, si les services de sécurité ont mis des agents provocateurs. Ça arrive souvent. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, peut-être l'exercice était assez transparent. Je dis jusqu'à hier parce que le ministre de la Justice, lui, a dit qu'il y avait c'était des communications privilégiées, que le secret professionnel devait être respecté. On a appris aussi que le ministre de la Défense et son homologue de la Sécurité publique ou de la Protection civile avaient échangé quelques blagounettes en se demandant si un tank ou plusieurs tanks pourraient peut-être faire la différence. Donc, même si c'était la catastrophe, on n'a pas perdu le sens de l'humour en haut lieu.
Premier constat... À ce moment-là, c'était pas encore la catastrophe. C'était-tu la catastrophe?
Bon, ça a été vite annoncé. Premier constat, d'ailleurs, à cet égard, les corps de police, parce qu'on les a beaucoup dénoncés, étaient beaucoup mieux coordonnés qu'on le disait. Ils parlaient tous avec les camionneurs. La police provinciale de l'Ontario, la GRC, la police de la ville d'Ottawa avaient tous des agents sympathiques à la cause qui fuitaient des infos. Même chose pour les militaires. Alors, les sauvages camionneurs qu'on dénonçait pour leur envie de renverser le gouvernement avaient apparemment beaucoup d'amis au sein des forces constabulaires. Puis, blague à part, ce qu'on a compris...
C'est pas tous les policiers qui aiment Justin Trudeau non plus.
bien entendu, et c'est le souhait qu'il y ait une diversité d'opinions dans la force constabulaire. La démonstration a été éloquemment faite pendant les audiences de la commission Rouleau. Mais ce qu'on a compris, c'est que les autorités étaient juste pas organisées. Et on parlait, toi et moi, hier, de la menace chinoise qui rôde au Canada. Si on n'a pas été capable de voir venir les risques associés à un convoi qui était parti de Vancouver, moi, je suis très inquiet sur notre vulnérabilité aux pénétrations des services d'espionnage chinois.
Mais y en a-tu de l'ingérence ou y en a pas eu?
Je te laisse faire tes délibérations. L'ex-chef de la police d'Ottawa avait déclaré qu'il était, lui, convaincu. T'sais, on avait parlé que les camionneurs venaient pique-niquer pour un week-end à l'eau, les services de renseignement. Les organisateurs avaient partout annoncé qu'ils s'en venaient pour un sit-in, sinon un sleep-in. Ils avaient réservé toutes les chambres disponibles dans la capitale pour des semaines. Le service de renseignement de la police d'Ottawa l'a échappé. Philippe Vincent, si on veut se partir un empire criminel, je te propose qu'on fasse ça à Ottawa.
C'est moi, je ne vais pas aux Bahamas, là, je retourne à Ottawa.
À Ottawa, tu vas être safe. Autre information, le SCRS, nos espions, n'a jamais pensé que le mouvement était financé de l'étranger ou téléguidé par des forces ennemies ou des groupes d'extrême droite américains. Contrairement à ce qui avait beaucoup circulé quand tu disais que c'était la catastrophe, très rapidement, on a dit attention, danger, péril en la demeure. Les équipes du bureau du premier ministre, on l'a aussi appris, ont très tôt senti la bonne occasion. On a décidé dans les lignes de communication de dire, attention, on pourrait vivre au Canada ce que les Américains ont vécu le 6 janvier 2021. Donc, péril, là, non seulement à la demeure, mais au Parlement, l'idée qu'on pourrait s'attaquer à cette institution directement, prendre d'assaut, alors que les services de renseignement ne pensaient pas que c'était un réel risque à ce moment-là. La veille de l'adoption de la loi, la gendarmerie royale pensait qu'il était toujours possible de lever l'occupation du centre-ville sans avoir recours à la loi. Il y a une seule voix discordante, en fait, en début de semaine. C'est le patron du SCRS qui disait justement qu'il n'y avait peut-être pas de menace étrangère, mais qui néanmoins, la veille de l'adoption de la loi, s'est dit favorable, même si les conditions pour son adoption n'étaient pas parfaitement remplies. La sécurité nationale, selon lui, n'était pas compromise, parce que c'est ça la clé. Il faut que c'est une loi de dernière instance.
Mais l'interprétation qui lui venait du ministère de la Justice, dont on n'a pas pu avoir les détails hier, lui disait que c'était correct, parce que l'interprétation de la même loi était plus large selon le gouvernement, mais on n'a pas pu savoir pourquoi.
Effectivement, c'est dans les détails que se trouve toujours le diable. Pour l'instant, ce témoignage du patron, M. Vigneault, du SCRS, c'est un cadeau de Noël avant les fêtes pour le premier ministre, parce que ça pourrait peut-être légitimer ce qui de plus en plus ressemble à un usage abusif de cette loi. M. Vigneault, lui, avait été renouvelé, c'est quand même important de le préciser, le 19 juin dernier, parce qu'il y a un renvoi d'ascenseur. Je ne le dis pas, je ne fais que souligner que...
Non, tu disais qu'un point d'interrogation.
Et voilà. Alors, pourquoi l'adoption de cette loi? J'espère que M. Trudeau, peut-être, va nous donner la réponse demain. J'en doute. Je pense qu'on a surtout testé un outil, mesuré son efficacité, envoyé peut-être aussi un message à tout le monde. Attention, on est capable de stopper net, quand il le faut, tous vos élans. Parce que mieux que des soldats dans la rue, tu sais, il y avait l'ancienne loi sur les mesures de guerre, une loi martiale, qui permettait, entre autres, de déployer des soldats, ce qu'aurait pu faire aussi le premier ministre. On a surtout compris que plus efficace que des bottes et des mitraillettes, c'est la capacité instantanée de geler les actifs de récalcitrants, de gens qui manifestent rouspète avec la collaboration active des institutions.
Parce qu'ils ne voulaient pas l'envoyer l'armée, même si l'Alberta la demandait. Là.
Vrai, parce que ça paraît mal, parce que ça aurait pu créer Kenney, de l'inflation. Oui, mais le gouvernement fédéral a fait de toute façon beaucoup mieux, je pense. Je reviens à ça. Plus efficace que des bottes, plus efficace que des mitraillettes dans la rue, saisir les actifs et que dans une économie numérique où sans carte de crédit, sans accès à tes comptes de banque, alors peut-être que nos camionneurs qui avaient tout prévu avaient leurs lingots d'or de côté quelque part dans une voûte, j'en doute entre toi et moi. Et aller au dépanneur avec un lingot d'or, c'est pas toujours simple. Tu sais, tu peux prendre ton canif puis dire, moi, de gosser un petit morceau pour te payer mon chip et mon coke. Ça marche pas comme ça. Donc, à partir du moment où tu peux, dans un univers, encore une fois, entièrement numérique, stopper l'accès à tes sous, t'es cuit, c'est le cas de le dire. Comme M. Bankman-Fried, tu te retrouves cuit. T'es pas le banquier, mais t'es le client cuit. 210 comptes de banque ont été ainsi gelés. Ça a pas duré une éternité. Dans bien des cas, ça s'est dégelé ou ça s'est dégelé dans les semaines qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi. On parle de 8 millions de dollars. Moi, je pense que c'était pas une erreur où le gouvernement savait exactement ce qu'il faisait, mais que il voulait probablement voir jusqu'à quel point notre gouvernement, l'outil pouvait fonctionner. Les conditions, M. Rouleau nous le dira, c'est le juge responsable de la commission d'enquête et qui va délibérer jusqu'en février, je pense. Le juge nous dira si ces conditions avaient été réunies, même si le ministre de la Justice ne veut pas donner ses avis ou rendre public ses avis là-dessus. Est-ce qu'on a pu étendre un peu le cadre interprétatif pour faire en sorte qu'on puisse déployer le mordant de la loi. Monsieur Rouleau nous le dira. Je pense que le gouvernement avait probablement l'intuition, sinon la certitude, que c'était audacieux. Mais moi, mon intuition, c'est qu'on a voulu envoyer un signal fort qui a fait effectivement en sorte que le mouvement d'occupation se termine. Mais c'est un mouvement, c'est un signal fort à tous. Au besoin, on a ce qu'il faut pour stopper, quand il est temps, ceux qui rouspètent trop fort.
C'est un rappel que cette loi-là existe et qu'elle pourrait être appliquée à nouveau.
Et rappelons-nous quand même, puisque tu parles de rappel, que depuis son adoption, quand on a réformé l'ancienne loi sur les mesures de guerre en 88, et qu'elle est devenue sur les mesures d'urgence, cette loi, on ne l'avait jamais utilisée. Je suis très curieux de ce que nous dira M. Rouleau.
Monsieur Rouleau,
quand lui déterminera si oui ou non le gouvernement avait la marge d'interprétation ou le droit de l'utiliser, je suis très curieux de ce qu'il nous dira. Moi, je crois qu'il arrivera à la conclusion que le gouvernement a abusé et n'aurait pas dû employer cette loi sur les mesures d'urgence. C'est mon sentiment après ce qu'on a entendu depuis quelques semaines à sa commission. Mais le résultat net des courses, le gouvernement n'avait pas le choix d'engendrer cette commission, parce que c'est lié. Si on met en place la loi sur les mesures d'urgence, on doit ensuite déterminer si ou non on a bien fait. Je pense que l'exercice a été collectivement très utile.
Stéphane, bonne journée.
Ciao.